23h22.
Chapitre 66 Le massacre des requins.
Dans la pêche des mers du Sud, quand, après un long et puisant travail, un cachalot capturé est amené contre le flanc du navire tard dans la nuit, il n'est pas d'usage, en règle générale, de procéder sur le champ au dépècement. Car c'est une besogne fort pénible dont on ne voit pas la fin de sitôt et qui requiert des bras de tous. La coutume veut donc qu'on amène toute la toile, qu'on mette la barre dessous et qu'on envoie tout le monde au hamac jusqu'au lendemain. Une seule exception toutefois. Les quarts aux ancres sont maintenus, c'est-à-dire que chaque heure, jusqu'à l'aube, deux fois deux hommes montent à tour de rôle sur le pont pour s'assurer que tout se passe bien. Mais il arrive que ces dispositions manquent leur objet, en particulier sur la ligne dans le Pacifique, car les légions de requins assemblées autour du cadavre amarré sont si nombreuses que si celui-ci devait être abandonné là, disons pendant 6 heures d'affilée, il n'en resterait plus grand-chose à voir au matin, hormis le squelette. En revanche, dans presque toutes les autres parties de l'océan où ces poissons ne se rencontrent pas en aussi grand nombre, on peut parfois diminuer considérablement leur prodigieuse voracité en les harcelant au moyen de pelles à baleines bien tranchantes. Procédé qui, cependant, semble, en certaines occasions, n'avoir pour effet que d'exciter davantage leur ardeur. Mais tel n'était pas présentement le cas avec les requins du Pequod. Même si, à n'en point douter, un observateur peu familier de ce genre de spectacle se fût imaginé, en se penchant par-dessus la rambarde cette nuit-là, que la mer alentour était une énorme meule de fromage et ses requins les asticots. Néanmoins, après que Stubb, son dîner achevé, eut désigné le quart aux ancres et que, selon les instructions, Kegg et un matelot du gaillard d'avant furent montés sur le pont, l'émoi ne fut pas peu considérable parmi les requins, car les deux marins, ayant descendu les échafauds nécessaires au dépècement à l'extérieur des pavois et abaissé 3 fanaux afin que 3 longs raies de lumière puissent éclairer la mer turbide, procédèrent à un massacre méthodique des requins, lançant sous eux leur louchet aux tranchants effilés, enfonçant profondément l'acier dans les crânes, en apparence leur seule partie vitale. Mais dans le chaos d'écume de cette puissante mêlée, nos sabreurs d'élite n'atteignaient pas toujours leur cible, ce qui ne laissait pas de révéler de nouveaux horizons sur d'incroyables férocités de l'ennemi. Non seulement ils happaient violemment les viscères dénudés de leurs congénères, mais encore, ployés comme des arcs souples, ils mordaient dans leurs propres entrailles qui semblaient n'être englouties et réenglouties par une seule et même bouche que pour se vider à l'autre extrémité par la blessure béante. Et ce n'était pas tout. Il était dangereux d'avoir affaire aux cadavres et aux fantômes de ces créatures, une sorte de vitalité générique ou panthéiste semblait continuer d'animer secrètement leurs os et leurs articulations après même que s'en était allé ce qu'on pourrait appeler leur vie individuelle. Tué et hissé à bord pour être dépouillé, l'un de ces requins faillit arracher la main du pauvre Kikkeg quand celui-ci essaya de fermer le couvercle inerte de sa mâchoire meurtrière. Kikkeg se moquait quel dieu fait le requin, dit le sauvage en secouant douloureusement sa main. Dieu de Fidji ou dieu de Nantucket, mais dieu qui fait le requin doit être diable indien.